Comment décrire? Comment raconter? Comment regarder? Comment reconnaître ce lieu? Restituer ce qu'il fut? Comment lire ses traces? Comment aller au-delà, aller derrière? Ne pas nous arrêter à ce qui nous est donné à voir? Ne pas voir seulement ce que l'on savait d'avance que l'on verrait? Comment saisir ce qui n'est pas montré? Ce qui n'a pas été photographié, archivé, restauré, mis en scène? Comment retrouver ce qui était plat, banal, quotidien? Ce qui était ordinaire? Ce qui se passait tous les jours? À quoi ça ressemblait? Qui venait là et pourquoi? Qui parcourait ces corridors? Qui montait ces escaliers? Qui attendait sur ces bancs? Comment s'écoulaient ces heures et ces jours? Comment faisaient tous ces gens pour se nourrir, se laver, se coucher, s'habiller? Cela ne veut rien dire de vouloir faire parler les images, de les forcer à dire ce qu'elles ne sauraient dire. Au début, on ne peut qu'essayer de nommer les choses une à une, platement, les énumérer, les dénombrer, de la manière la plus banale possible, de la manière la plus précise possible, en essayant de ne rien oublier. Deux grands doubles éviers de faïence blanche, dont l'un est pourvu d'une essoreuse à main, quatre chaises, deux planches à repasser reposant sur de larges pieds de fonte, plein de bases rectangulaires.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Comment décrire, s'interroge Georges Perec. Comment raconter? Comment regarder? Et puis, comment aller au-delà de ce que l'on voit? Ces phrases que l'on vient d'entendre, il les a écrites en 1979 pour le film « Récit d'Ellis Island », réalisé avec Robert Bobert. Elles décrivent très précisément l'essence même de leur travail à tous deux. Quelque chose qui a à voir avec la mémoire, l'absence, le vide de certains lieux et le désir, comme l'a écrit Perec, d'obliger les morts à être encore présents. Et comme il le dit, en parcourant les bâtiments désaffectés de cet îlot en face de Manhattan, qui a vu passer des milliers d'immigrants jusqu'en 1954, c'est évidemment quelque chose qui résonne avec le fait d'être juif et juif après l'anéantissement. Mais ce sont également des mots, des interrogations et des sentiments qui trouvent leur écho en nous, nous, héritiers de cette histoire-là. Pierre Dumayet, l'inégalable questionneur d'écriture qui nous a quittés en 2011, disait qu'il est important de lire des livres qui semblent connaître ceux qui les lisent. Comment mieux résumer nos bonheurs de lecture, ce moment si précieux où, en tournant les pages, on se sent en terre d'accueil, où l'on lit exactement ce que l'on ressent au plus profond de soi-même. Ce même sentiment de fraternité qui nous envahit lorsque l'on se plonge dans le nouveau livre de Robert Bobert, Par instant, la vie n'est pas sûre, tout juste paru chez POL. C'est sous la forme d'une longue lettre à son ami Dumayet, une invitation à le suivre dans ses souvenirs, ses amitiés, ses lectures, ses dettes envers les amis disparus, tout ce qu'il a fait tel qu'il est aujourd'hui. Un cinéaste et un écrivain qui, en nous racontant des histoires graves et légères, avec une infinie délicatesse, parvient à nous rendre meilleurs que nous le sommes, ou du moins à nous le faire croire. Bonsoir Robert Bobert, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, surtout pour parler de ce livre si étonnant, si compliqué à réaliser j'imagine, parce que comme l'avait écrit lui-même Montaigne, qui disait qu'il écrivait par saut et par gambade, en fait c'est un peu ça cette impression. Vous vous êtes laissé envahir par ces souvenirs qui, dites-vous au début du livre, sont arrivés bras dessus, des souvenirs d'une vie consacrée à l'art, l'écriture, le film, à l'amitié, à la mémoire, à arpenter le monde d'hier, celui d'aujourd'hui. Ça a dû être un exercice à la fois très émouvant pour vous et j'imagine très bouleversant de vous replonger dans ces souvenirs-là précisément.
Oui, en fait, quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et puis, en cours de route, je me suis rendu compte que le fait que je ne m'attende pas à ce qui allait arriver était peut-être un bien, et que c'est comme ça qu'il fallait parler. Et bien sûr, je n'ai pas fait de plan. Quand on vient d'entendre Georges Perec, comment décrire, comment raconter, je ne sais pas non plus comment raconter ce livre, parce que la mémoire n'est pas chronologique, Et il faut se le dire. Enfin, il faut le savoir. Elle est affective. Et là, je me suis dit, voilà, il faut que j'avance comme les choses m'arrivent. Et ne pas me dire, ah, ça aurait dû se placer avant, ou j'aurais dû en parler après. Je voulais en parler au moment où j'y pensais. Je me suis dit, c'est peut-être la meilleure manière pour dire le mieux possible ce que je ressentais au moment où je le ressentais. Et ne pas faire un plan de travail. Ça durait quand même 3 ans.
Mais d'ailleurs, c'est un des passages de votre livre, Comment ranger sa bibliothèque. Georges Perec a écrit là-dessus, Dumayet vous en a parlé. Tous les gens qui ont une bibliothèque se demandent un jour en s'arrachant les cheveux, mais comment ranger une bibliothèque? Par affinité, par ordre alphabétique. Et en fait, ce livre, j'en suis sûre, ressemble à votre bibliothèque. C'est-à-dire qu'il est plein de ces apparentements dus au hasard, à l'amitié, une photo devant un livre parce que il y a un lien, même les apparentements entre les livres, c'est comme ça que vous avez écrit. Au fond, c'est peut-être en regardant votre bibliothèque aussi.
Oui, ma bibliothèque ressemble forcément à une bibliothèque parce qu'il y a énormément de livres. Je ne sais plus où les mettre. Si mes parents, s'ils étaient vivants, voyaient ma bibliothèque, ils ne comprendraient pas parce que à la maison il n'y avait pas de livres. Donc c'est peut-être une manière de me rattraper aussi. J'ai beaucoup de crayons, de plumiers, de vieux plumiers qui me servent pas, mais qui sont là et qui me rassurent en tant qu'objet vivant. Donc il y a des post-it où il y a des bouts de phrases que je change selon l'humeur. Et c'est ça également, enfin, il y a les souvenirs qui arrivent dans le désordre. Quand j'ai lu la phrase d'Aragon, ce livre ne ressemble à rien qu'à son désordre, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il a écrit ça pour moi. Et je n'avais pas lu ça avant. Le désordre était déjà là. Et si je devais le réécrire, ça serait à nouveau dans un désordre, mais pas dans le même désordre. Et ça serait aussi bien ou aussi mal, je ne sais pas. Mais je crois, voilà, j'ai voulu avancer comme ça. Et s'il y a un mot, peut-être qui est le mot-clé de ce livre, ce sont les rencontres.
Alors justement, d'ailleurs, à l'aube de ce livre, il y a cette rencontre si importante pour vous avec Pierre Dumayet. D'ailleurs, la plupart de ceux qui ont eu le bonheur de rencontrer Pierre Dumayet savent que ça a été dans leur vie une rencontre très importante. Il va nous accompagner tout au long de notre conversation ce soir, Robert Bobert. On va l'écouter parce que ce qu'il vous a ouvert, Pierre Dumayet, et Dieu sait si c'est essentiel dans votre vie, ce sont les livres.
Je demandais aux gens de souligner les phrases qui les intéressaient, parce que je pense qu'on ne lit vraiment qu'avec un crayon, et qu'on ne souligne pas ce qui est important pour l'auteur, mais on souligne ce qui est important pour soi, et pour des raisons souvent très magiques, pour en revenir à la magie. Enfin, je me souviens, j'ai eu cette idée un jour où j'avais fait une émission sur Le Rouge et le Noir à Grenoble, et je m'étais dit, tiens, je vais essayer de faire lire Le Rouge et le Noir par quelqu'un qui sera plutôt du côté de Madame de Rênal, quelqu'un qui sera plutôt du côté de Julien Sorel, etc. Puis la personne que j'avais choisie pour être du côté de Madame de Rênal avait souligné une phrase à un moment très bizarre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Julien sort du séminaire et va la voir dans sa chambre, il met une échelle contre le mur, il monte sur l'échelle, il rentre dans la chambre de Madame de Rênal, et puis il jette l'échelle sur une plate-bande de fleurs. Et la phrase par laquelle Stendhal parlait de ce geste de jeter l'échelle sur la plate-bande de fleurs était soulignée par cette femme. Et quelle importance ça avait. C'est formidable. Je veux dire, dans tout ce chapitre, il y avait cette phrase-là qui était soulignée. Ben, c'est ça la lecture. Enfin, je veux dire, c'est brusquement découvrir que quelqu'un s'intéresse particulièrement à cette phrase. Pourquoi, on n'en sait rien, mais le mystère, c'est pas mal, non?
Voilà, le mystère, c'est pas mal. Robert Bobert, vous avez fait plus de 50 films avec votre ami Pierre Dumayet. Et à chaque fois, c'était une aventure, une découverte, une ouverture, surtout comme une porte à chaque fois qui s'ouvrait sur un auteur. Et puis surtout pour vous, ça a été sur les livres. Vous dites qu'au fond, il vous a quasiment appris à lire.
Oui. Et j'ai voulu que dans ce livre, peut-être que j'ai appris à lire grâce à lui, enfin certainement grâce à lui, mais en essayant de ne pas oublier ce que j'étais avant. Et je savais que je ne lirais jamais comme lui, ni comme quelqu'un qui aurait fait des études, mais je lirais comme quelqu'un qui a été dans le monde du travail à l'âge de 15 ans, et que ce que m'a apporté ce monde du travail, surtout que c'était dans les années d'après-guerre, où il fallait se reconstruire...
Vous étiez tailleur.
...m'aidait à rentrer dans les livres différemment et de souligner ce que d'autres ne soulignaient pas. Et c'est comme ça que j'ai... Et ce qui était important dans notre travail aussi, c'est la liberté qu'on s'accordait. Petite anecdote, ça devait être la deuxième émission qu'on devait faire ensemble. Et il me téléphone un soir, il me dit « Écoute, je suis emmerdé ». Alors j'ai dit « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit ?» Parce que j'ai écrit un truc, mais je vois pas du tout, ce qu'on peut mettre comme image dessus. Alors je lui dis, si tu savais que les images, tu fais le film toi-même, t'as pas besoin d'un réalisateur. Et je lui dis, en plus, moi ça m'intéresse, que ce soit pas évident, parce qu'il n'est pas question d'illustrer un texte. L'image est là, le texte est là, il faut faire en sorte que les deux se rejoignent, et que l'image ne soit pas une simple illustration de ce que tu racontes.
Mais d'ailleurs, Robert Bobert, dans votre livre, vous citez une phrase de Pierre Dumayet qui répondait à quelqu'un et qui vous l'a transmise, et je comprends pourquoi il vous l'a transmise. C'est le plus beau compliment que l'on puisse faire, justement, à un réalisateur qui travaille avec quelqu'un pour, comme disait Pérec, voir au-delà. Il a écrit... Robert Bobert ne met pas des images sur un texte, il cherche et réussit à faire voir du visible imprégné de sens.
Oui, oui. Quand j'ai lu ça, j'avais oublié cette phrase. C'est dans mes dossiers que j'ai retrouvé ça. Je me suis dit, est-ce que je le mets? Est-ce que c'est pas trop auto-flatteur? Donc je me suis dit, il faut que je le mette en note simplement et non pas dans le récit. Et cette liberté qu'on s'accordait, puisqu'après coup, il a dit, d'accord. Il n'écrivait pas de scénario, il écrivait un texte. À moi de me débrouiller avec. Et j'étais très content d'avoir... après, quand j'ai travaillé avec Pérec, qui parlait de contraintes, je me suis dit, c'est exactement ça. La contrainte nous oblige à créer, à inventer. D'où le puzzle pour l'affaire Dreyfus, le petit basset pour Proust, etc. Ouais.
Mais d'ailleurs, il y a ce travail qui vous a intéressé en tant que réalisateur, de filmer l'invisible, finalement, de mettre vos images sur le texte de Pérec, sur les textes de Dumayet. Mais surtout, ce qui nous frappe, nous lecteurs, quand on parcourt votre livre, Par instant, la vie n'est pas sûre, Robert Bobert, c'est cette communauté d'esprit, d'âme, d'amitié, d'histoire, entre tous ces hommes et ces femmes dont vous nous parlez. Il y a quelque chose de la quête de l'essentiel parmi tous les gens que vous avez eu le bonheur de rencontrer, ceux avec qui vous avez travaillé, ceux que vous avez croisés. Ça, c'est important pour vous, cette communauté-là.
Oui, oui, absolument. On me dit, t'as eu plusieurs vies. Je dis non, j'ai pas eu plusieurs vies. J'ai eu une vie qui est remplie de rencontres. Et c'est pourquoi quand je... J'ai entendu quelqu'un dire que j'ai fait écrit un livre sur Dumayet. Non, j'ai pas fait un livre sur Dumayet. J'ai fait un livre à Dumayet, ce qui change tout. Donc, ce qui est important, c'est la relation qui s'établit entre lui et moi, et entre les personnes qu'on filmait ou qu'on rencontrait et moi. Prenons un film que j'ai pas fait avec lui sur le cardinal Lustiger. Je ne raconte pas le film. Je raconte ce qui s'est passé entre le cardinal Lustiger et moi, entre l'écouteur et l'écoutant, ou le regardeur et le regardé. Et c'est pourquoi certaines photographies de certains photographes m'intéressent aussi.
Quelle est la bonne distance?
Quelle est la bonne distance où on se met par rapport à ce qu'on veut filmer, accepter les regards de celui qu'on photographie, qu'on filme, ce sont des questions qu'il nous pose à nous, qui avons la responsabilité de les filmer ou de les photographier.
Et vous réglez son compte à cette éternelle question, faut-il s'effacer quand on filme ou quand on photographie? Et vous répondez carrément non.
Non.
Non, bien sûr que non, ce serait hypocrite et méprisant.
Oui, oui. Et puis en plus on serait dans une situation de voyeur. Je ne suis pas un voyeur. Et dans un film que j'ai fait avant de travailler avec lui, que j'ai tourné en Pologne, j'ai dit ce qu'on montre... Ce n'est jamais la vérité, mais la vérité transformée par notre présence. Voilà, on est là, on ne sait pas comment seraient les gens ou les choses si on n'était pas là. On est là, et c'est ce mouvement réciproque qu'on montre sur un écran.
Et puis, il y a une chose très précieuse que Pierre Dumayet a appris finalement à tous ceux, journalistes éventuellement, qui ont étudié son mode de questionnement inégalable, et ceux qui, comme vous, ont travaillé avec lui, Robert Bobert, c'est le silence. Alors, en 1980, il était interrogé sur notre antenne par Jacques Chancel, qui venait de lui dire, sur un mode un peu ironique, que quand même, le silence dans ses émissions...
Je vais vous dire, si j'ai abusé de quelque chose, justement, j'ai l'impression que c'est pas du silence, parce que la raison pour laquelle j'aime bien me taire, c'est que si je me tais, je suis à peu près sûr que l'autre va parler. Oui. Pour une raison qui m'échappe complètement, mais quand vous avez quelqu'un qui n'est pas du métier, qui est là, et si vous lui posez pas de questions, il croit, très gentiment, que c'est à lui de remplir le vide, parce qu'il s'aperçoit que la caméra tourne, qu'il y a la pellicule qui s'use, ou du ruban magnétique, et qu'il supporte pas comme ça, qu'il est, du temps perdu pour rien. Alors, il parle, et c'est formidable, parce que là, il dit vraiment quelque chose que je ne lui ai pas demandé, et moi, j'avoue que je préfère de beaucoup obtenir des gens ce que je ne leur demande pas, plutôt que ce que je leur demande. D'où le goût du silence. Du silence opératoire.
C'est beau comme réponse, Robert Bobert. Oui, oui. Vous l'avez expérimenté,
plus,
oui.
Il y a une phrase de Dumayet que j'ai attribuée rétrospectivement à un entretien qu'il avait, le grand entretien qu'il a eu avec André Schwarzbart en 1959. Schwarzbart que j'avais connu quand j'étais tailleur, et lui aussi, on avait travaillé dans le même atelier. Et Schwarzbart, il avait des silences qui duraient. Et Pierre Dumayet, il dit, j'aime bien quand quelqu'un se tait, lorsqu'il prend le temps de laisser venir les mots, et quand il se comporte devant une caméra comme devant une page blanche. Je crois que c'est exactement ça. Et c'est au moment où on sait que les mots qui vont venir, on peut les écrire. Voilà. C'est pour que quand on lit les manuscrits, par exemple les manuscrits de Flaubert, au moment où l'encre sèche, etc., on imagine le silence avant de mettre le mot juste. Et les silences sont extrêmement importants. Les silences de Duras, c'était formidable. Et puis un silence, il y a des silences qui sont pleins.
On va écouter un silence de Duras avec Pierre Dumayet.
Je me suis dit qu'on écrivait toujours sur le corps mort du monde et de même sur le corps mort de l'amour. Que c'était dans les états d'absence que l'écrit s'engouffrait pour ne remplacer rien de ce qui avait été vécu ou supposé l'avoir été, mais pour en consigner le désert par lui laissé. Est-ce que ça éclaire bien sur l'écriture, ça ?
Pour moi, oui. Mais elle a presque à la lettre. Quand un événement, c'est pas, il ne peut pas. Un événement ne peut pas se passer deux fois. Une fois en réalité, une fois dans un. Dans un livre. Mais il faut quand même qu'il ait eu lieu pour que le livre soit apte à en rendre compte. Mais l'événement lui-même est détruit, si tu veux, par le livre. Ce n'est jamais ce qui a été vécu. Mais le livre fait ce miracle. C'est que, très vite, ce qui est écrit a été vécu. Ce qui est écrit a remplacé ce qui a été vécu.
Auf dem Pripetschik brennt ein Feuer und ein Stuhl ist heiß. Und der Rabe lernt kleine Kinder weg, der Seid ihr kinderlich, gedenkt ihr Teile, was ihr lernt da? Sagt ihr noch einmal und tacke noch einmal, kommet alle vor. Sagt ihr noch einmal und tacke noch einmal, kommet alle vor. Kinder mit groß Geschick, also so gehe ich heim.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Relire, c'est une façon... quand on connaît quelqu'un, on ne va pas le connaître une fois, il me semble. On ne va pas dire je connais Étienne, je l'ai vu une fois, ça me suffit. Ça serait bizarre. Ce n'est pas comme ça qu'on est dans la vie. Alors, il me semble qu'on peut être avec les livres dans les mêmes rapports que... dans les rapports qu'on ait avec des amis ou des gens qu'on aime. C'est-à-dire que les voir n'aurait pas de sens si on n'était pas assuré de les revoir plusieurs fois. Et revoir plusieurs fois un livre, c'est le relire, tout bêtement, quoi. Mais on ne relit jamais un livre, vraiment. C'est toujours une autre lecture que la précédente. On ne peut pas relire un livre comme on l'a lu la première fois, c'est pas possible. Mais bon, tiens, on peut philosopher, c'est peut-être aussi un peu comme ça qu'on vit.
Relire, vous dites que c'est aussi naturel qu'aimer.
Oui, je crois que c'est physique un peu, il me semble, pour moi. La lecture, c'est quelque chose d'assez... le bonheur de la lecture est un bonheur physique, en tout cas, il me semble. Si on est en accord avec ce qu'on lit, évidemment, si on lit un truc qui vous barbe, bon.
On entend toute la malice aussi des réponses de Pierre Dumayet, Robert Bobert. Mais sur cette lecture, au fond, j'ai envie de vous demander si Pierre Dumayet, vous ayant ouvert aussi, notamment toute la littérature du 19e, qu'il aimait beaucoup, qu'il connaissait si bien, et qui vous a permis de vous engouffrer dans ce monde des livres, au fond, c'est aussi par lui que les mots sont arrivés sur une page pour vous, que vous êtes devenu écrivain. Votre premier livre, c'était « Quoi de neuf sur la guerre » en 1993. Et comme dans ce livre que vous avez écrit, les souvenirs viennent aussi souvent par deux, bras dessus, bras dessous, Pierre Dumayet vous a montré la beauté des mots sur la page et Paul Otchakowski-Laurence, votre éditeur, vous a permis d'aller au-delà de quelques mots que vous pensiez être une nouvelle. Et un jour, il vous a dit, après l'avoir lu, c'est pas une nouvelle, c'est le début d'un livre.
Oui.
Et voilà comment vous êtes devenu écrivain.
Oui, et alors Dumayet, j'ai commencé à travailler avec lui pour lire ses livres, j'en venais pas large, hein, parce que j'avais encore jamais rencontré quelqu'un qui avait lu autant de livres et qui en parlait si bien. Il n'a jamais fait comme si je n'avais pas lu. Je ne m'imaginais pas comment pouvoir filmer un auteur, vivant ou mort, sans l'avoir lu. Et je me suis demandé pourquoi, aussi parce qu'on m'a posé la question, comment ça se fait que je n'ai pas écrit avant mon premier... J'avais 60 ans quand Neuf sur l'hier est sorti. Et Paul Otchakowski m'a dit, sûrement parce que dans tes commentaires que tu faisais seul, tu écrivais déjà en même temps un texte, ce qui fait que ça retardait le moment d'écriture. Alors, j'écrivais pour des images que je faisais, me sentant protégé par l'image. Mais des mots tout seuls, je me suis dit, comment les habiller ces mots, sans image. Et puis, voilà, poussé par Perec d'abord, et par Paul Otchakowski, je comprenais pas comment lui savait que les 8 pages que je lui donnais à lire, non pas pour les publier, mais simplement pour avoir un avis, comment il savait que ça allait être un livre.
Ça s'appelle être éditeur.
Voilà.
Formidable. Mais d'ailleurs, vous dites, Robert Bobert, les images, d'abord, il y en a dans votre livre, parce que il y a des photos reproduites, il y a des dessins, il y a votre bibliothèque au fond, il y a tout ce que vous voyez. Mais il y a ces souvenirs qui nous permettent de nous former nos images. Et notamment, quand vous revenez sur votre travail avec Pierre Dumayet, il y a quelque chose qui vous a lié, c'est qu'il était fasciné, comme beaucoup d'ailleurs, par les récits hassidiques. Et il trouvait, vous connaissiez là, infiniment mieux que lui, et donc il vous demandait sans cesse de lui raconter des histoires comme ça. Et une de vos premières émissions, vous l'avez faite avec le rabbin Ashkenazi, à propos du Talmud. Et en fait, à la fin de cette émission, ce rabbin Ashkenazi, qui était un grand intellectuel, vous a envoyé un petit mot pour dire que grâce à Pierre Dumayet, je me suis entendu dire des choses que je ne savais pas encore.
Voilà, alors ça c'est le genre de phrase. Quand il m'a dit ça, alors c'est le genre de phrase qu'on retient par cœur, hein, voilà, sans effort. Et puis je me suis dit, mais comment pourquoi il m'a dit ça? Et en fait, on ne peut pas dire ce qu'on ne sait pas. Mais on ne sait pas nécessairement ce qu'on sait. Et c'est des choses qu'il avait en lui, profondément. Et simplement, Pierre Dumayet, qui avait comme premier souci, c'est celui de comprendre, essayer de transmettre ce qu'il avait compris, lui posait des questions que les élèves de ce rabbin ne lui posaient pas. Et voilà, arrive un type qui est curieux, intelligent, qui a envie de savoir, qui a envie de comprendre, qui lui pose des questions. Et ce rabbin répond. Et c'était formidable. Et je me disais tout à l'heure en arrivant, tiens, ça serait bien qu'à la fin, je dise, tiens, je me suis entendu dire des choses que je ne savais pas encore.
Oui, mais peut-être, finalement, peut-être trouver les mots. C'est ça l'art du questionnement, et Dieu sait si Pierre Dumayet le pratiquait. Oui. À un degré que jamais personne n'a jusqu'ici égalé, en tout cas. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de talmudique dans le questionnement de Pierre Dumayet, parce qu'il interrogeait le texte, puis il interrogeait la réponse, et au fait, il interrogeait la question elle-même.
Oui, oui, bien sûr. Oh non, mais les questions, et c'est... Il arrive que les questions soient plus importantes que les réponses. Mais ça n'a pas d'importance, puisque... Si la réponse n'était pas satisfaisante, arrive une autre question. Et je crois que c'est ça la relation entre celui qui pose des questions et...
Il y a aussi dans votre livre, bien sûr, Robert Bobert, ce livre qui vous ressemble et qui parle de votre vie, de vos amitiés, de vos souvenirs, de votre mémoire. Il y a le fait que vous êtes un piéton de Paris d'abord, un piéton de vos quartiers. Il y a beaucoup de choses sur le quartier de votre enfance, la Butte aux Cailles, sur le Paris populaire, Belleville aussi, ce qui vous rapproche de votre ami Georges Perec. Vous avez d'ailleurs fait un film qui s'appelle En remontant la rue Villain, sur les traces aussi de Georges Perec. Et au fond, cette façon d'arpenter le Paris, c'est aussi votre façon d'arpenter le monde et la mémoire. Dans tous vos films, notamment dans le dernier, Vienne avant la nuit, il y a le fait très important d'aller sur les lieux et, comme le dit Perec, d'interroger l'absence.
Oui, le mot arpenter est juste. Moi, je ne marche pas, je me balade. Et instinctivement, je retourne dans les lieux que j'ai connus, qui sont souvent transformés, mais je vois en transparence de ce qui m'est donné à voir au moment où j'y vais. J'ai l'impression que les lieux me font signe également, qu'on se regarde. Et voilà, ce qui n'est plus là, l'absence, quand on regarde des photographies par exemple, les photos nous racontent très souvent, je ne parle pas des photographies récentes, elles nous racontent que les gens ne sont plus là, au-delà de la qualité de photographie. Ce que cette photographie nous raconte quand elle regarde celui qui est photographié et celui qui photographie. Et celui qui photographie est présent également dans le regard de celui qui est photographié. Et d'où l'importance de ces moments. Alors, si en plus la photographie est belle, c'est formidable.
Vous parlez d'ailleurs de Doineau, qui a été un de vos amis, vous parlez de Cartier-Bresson, vous parlez de Walker Evans, bien sûr. Et il y a dans les films des jeunes réalisateurs qui, comme vous, interrogent l'absence. On l'avait reçu ici, d'ailleurs, en 2018, à propos de ce film magnifique, Les enfants du 209 rue Saint-Maur, c'est Ruth Zilberman.
Les livres que j'ai pu lire sont absolument essentiels. Il y a Perec, naturellement. Il y a aussi Calais, Modiano. C'est-à-dire que je suis une paysanne de Paris. J'aime beaucoup marcher dans Paris. Et j'aime particulièrement aussi toute la littérature qui a trait à Paris. C'est quelque chose qui m'a tout le temps fascinée. Et donc Perec, oui, évidemment, la vie mode d'emploi, aussi espèce d'espace. C'est-à-dire la manière dont l'espace est un lieu où se dépose le temps. Qu'il soit d'ailleurs le passé, le présent ou le futur. Perec prononce cette phrase, je pense, dans l'espèce d'espace. Qu'y a-t-il derrière votre papier peint? Alors, évidemment, il le dit pour qu'y a-t-il derrière notre papier peint? Et on peut dire que je suis son injonction à la lettre, puisque je vais voir, en effet, ce qu'il y a derrière les papiers peints du 209 rue Saint-Maur. Mais c'est aussi, qu'y a-t-il derrière notre papier peint? Et c'est aussi aller chercher derrière nos peaux successives Et les objets, comme ça, eh ben, je trouve que ça aidait un petit peu. C'était comme du décolleur de papier peint, en quelque sorte.
Robert Bobert, comme l'explique Ruth Zilberman, il faut aller voir derrière, mais vous cheminez avec des fantômes. Alors souvent, ce sont des fantômes qui ont connu un destin tragique, mais vous arrivez à les rendre pas désespérés. Ce sont des fantômes parce que vous les faites revivre, qui du coup retrouvent un peu de bonheur de vivre. C'est important de cheminer avec ces fantômes.
Ah oui, et puis compte tenu de mon âge, les fantômes sont de plus en plus nombreux. Ils viennent d'ailleurs souvent quand on les attend pas. D'un seul coup, ils sont là. La promenade que je fais avec mon petit-fils Joachim, dont il m'est toujours difficile de parler. Voilà, c'était ça. Et j'ai revu pour la première fois, alors qu'on avait 11 ans l'un et l'autre, j'ai revu son visage.
Beck. Votre ami Beck,
oui.
À la butte aux cailles.
Voilà.
Qui est présent dans votre livre.
Voilà. Ouais. Donc, je n'imaginais pas du tout. Petite anecdote en passant, c'est que j'ai reçu une lettre il y a quelques jours de quelqu'un qui me dit, il y a eu au mois de février dernier des affichettes au pied des immeubles où des enfants avaient été déportés. Et quelqu'un qui me dit, j'ai appris que dans l'immeuble où j'habitais, par une affiche qui avait... sur la porte cochère, c'est là qu'habitait Henri Beck. Et c'est voilà. Et du coup, il a envie de savoir qui était cet enfant. Et donc, il m'a envoyé un mot pour me dire ça. C'est-à-dire qu'Henri Beck a aussi laissé cette trace.
Oui, c'est ce devoir dont parle Pérec, faire que les morts reviennent dans les espaces où ils ont vécu. Il serait difficile de terminer notre conversation, qu'on pourrait poursuivre pendant des heures avec vous, Robert Bobert, sans la voix de Pierre Dumayet, toujours qui parle de la lecture. Ce Pierre Dumayet qui disait déjà tout à l'heure que c'est physique, en fait, la lecture, avant d'être intellectuelle.
Je crois qu'il y a quelque chose de purement physique dans la lecture. Enfin, je pense que l'envie de lire traduit... mentalement, un besoin physique, on va dire. Je crois que on a envie d'être blotti dans un monde accueillant, et alors on lit. Ce qui est une réaction un peu bizarre, on pourrait mieux faire autrement, procéder autrement. Mais enfin, pour moi, c'est un peu ça, la lecture. J'ai jamais la réaction contraire consisterait à s'ennuyer dans un premier temps et à vouloir se distraire en lisant un livre. Ça, c'est une idée qui m'échappe complètement. J'ai envie de me distraire, je regarde par la fenêtre ou je ferme les yeux éventuellement.
Voilà, Robert Bobert. Pour vous aussi, on sent bien que c'est physique.
Oui, oui, oui. C'est pourquoi je ne peux pas lire n'importe où. Il y a des endroits où on lit mieux. Enfin, je crois. En tout cas, c'est pour moi. C'est... Comme j'ai commencé à lire tard également, j'ai tout fait un peu tardivement. Et je me rends compte que dans les années qui viennent de passer, j'ai beaucoup plus relu des livres que j'aimais que d'avoir lu des nouveaux livres. D'autant plus que 20 ans ou 30 ans après, on ne lit pas de la même manière. Non pas qu'on a mal lu la première fois, mais avec 20 ans et 30 ans de plus, on pense à des choses différentes et on reçoit les sentiments d'une autre manière. Et la lecture, pour Dumayet, était plus importante que l'écriture. Et donc, je relis, peut-être inconsciemment sous son regard, mais il y a une phrase aussi qui m'est revenue en l'écoutant. C'est quelqu'un qui n'aimerait pas relire... un livre qu'il a aimé serait comme quelqu'un qui dirait d'une femme « Je l'ai déjà lu
». Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merveilleux comme d'habitude avec Pierre Dumayet. D'ailleurs, je rappelle qu'il faut lire son autobiographie d'un lecteur parce que c'est un livre formidable. Les autres aussi. Et vous, Robert Bobert, ce dernier livre par instant, « La vie n'est pas sûre » qui vient de paraître aux éditions POL, c'est vrai que c'est un livre qui nous prend dans les bras. Et ça, c'est tellement important en ce moment. Merci Robert Bobert, merci d'être venu, merci d'être là, merci d'être vous surtout, ça fait du bien.
Merci à vous.
Au revoir.